Ici Francis Richard, nous sommes le 12 juin 2010 et je vous parle de Suisse romande. Il faut lire le modèle suisse de François Garçon pour mieux connaître la Suisse. Quand je vais en France, je me rends compte que les Français ne connaissent pas grand-chose à la Suisse, qu'ils la dénigrent à partir de poncifs qui, depuis le temps qu'ils sont employés à tort contre elle, devraient être éculés. Force est de constater qu'il n'en est rien. Même si beaucoup de choses en 2 ans ont changé depuis la parution de ce livre, les fondamentaux qui en constituent la matière essentielle demeurent, sans doute parce que l'auteur, de façon prémonitoire, ne parle pas spécifiquement des sujets qui, ces derniers temps, ont fâché les incompétents gouvernants français contre la Suisse, tels que le secret bancaire ou l'évasion fiscale. L'auteur ne consacre pas moins de 3 chapitres sur 9 à la démocratie helvétique, qui est à son avis un des facteurs clés d'explication de la réussite du pays. Il rappelle fort justement que celui-ci aurait toutes les raisons de se disloquer. 4 langues nationales, dont l'allemande, largement majoritaire, 26 États, 2700 communes, 21% d'étrangers, plusieurs religions, etc. En Suisse, il y a autant de parlements et autant de gouvernements que d'entités politiques, confédérations, cantons, communes. Ils sont les uns comme les autres jaloux de leurs prérogatives. Leurs domaines d'action sont relativement bien délimités. Même si la confédération a tendance à empiéter sur les cantons sur les communes, le fédéralisme reste bien vivace. François Garçon ne prononce pas le mot de subsidiarité, mais c'est bien le mot qui convient pour définir cette répartition des tâches qui part du bas vers le haut. Les 2 assemblées fédérales, le Conseil national dont chaque député représente peu ou prou le même nombre d'électeurs, et le Conseil des États où chaque canton est représenté par 2 députés et chaque demi-canton par 1 député, doivent se mettre d'accord. Une loi ne franchit l'étape parlementaire, je cite, que si les 2 chambres sont tombées d'accord à la virgule près. Il est à remarquer que les élus ne reçoivent que des indemnités modiques. Ils exercent par ailleurs une activité principale. Et que les ministres sont en nombre réduit. 7 pour la Confédération. De plus, je cite, « L'administration suisse, déjà frugale, subit actuellement une cure d'amaigrissement. » Elle se continue d'ailleurs. Et, pour l'heure, les cantons réduisent leur endettement et orientent leur politique budgétaire vers des spirales vertueuses. L'endettement public, cela ne vous rappelle rien? Dans les autres pays démocratiques, la démocratie de concurrence règne. En Suisse, la démocratie de concordance est la recette politique. Au niveau fédéral, on parle de formule magique. Les principaux partis politiques sont représentés dans les gouvernements en proportion de leur poids électoral. Comme l'écrit Jean-Daniel Delay, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Genève, cité par l'auteur, « Contrairement à la démocratie de concurrence, qui permet à la majorité d'imposer sa loi à l'opposition, la démocratie de concordance exige de chaque partenaire qu'il sache tout à la fois modérer ses exigences et admettre en partie celles de ses adversaires. » La démocratie directe en Suisse s'exerce sous 3 formes inédites dans les autres pays démocratiques, au niveau communal, cantonal et fédéral. Par l'initiative populaire, le peuple peut proposer. Par le référendum facultatif, il peut sanctionner une décision prise par le Parlement. Par la pétition, il peut interroger. Résultat, la machinerie du scrutin périodique est la condition de la paix civile. Elle apparaît comme le signe de maturité d'un État démocratique. François Garçon décrit le système hors norme de formation en Suisse, dont j'ai eu la chance de bénéficier dans mon jeune temps, et qui est à la base du dynamisme économique du pays. La paix du travail, la grève peu utilisée est vraiment l'ultime recours, est aussi pour quelque chose dans ce dynamisme, qui se traduit par un faible taux de chômage, faible taux que favorise encore la facilité de nouer et de dénouer les rapports de travail. La Suisse ne dispose pas de richesses naturelles en dehors de l'eau de ses glaciers. 65% de son territoire est composé de montagnes. Cela ne l'empêche pas d'être un véritable dragon économique, dont le tissu industriel qui profite de la mondialisation est dominé par les PME, à côté desquelles prospèrent quelques multinationales. 5 d'entre elles figurent parmi les 100 premières au monde. Dans quel secteur la Suisse excelle-t-elle ? La pharmacie, l'industrie du médicament, la biotechnologie, l'industrie des machines, l'industrie alimentaire, l'horlogerie. La Suisse est donc loin d'être seulement le pays des banques et des compagnies d'assurance. Le modèle suisse est un livre qui expose pourquoi les Suisses s'en sortent beaucoup mieux que les autres. Je cite. Dans cet écosystème de la superficie de l'Aquitaine ou de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les choix collectifs passent autrement qu'en les imposant. Les populations immigrées ont été accueillies sans être concassées. Une industrie du savoir s'est renforcée pour atteindre l'excellence et une formidable prospérité au bénéfice du plus grand nombre a été rendue possible. Le tout supervisé par un État minimal. Quel pays peut se vanter d'un pareil bilan ? François Garçon s'adresse principalement à la France et aux Français. Je cite. La France n'aurait-elle pas intérêt à enfin tenter d'importer certaines recettes helvétiques, autres que la fondue, quitte à les adapter sans les dénaturer ? Qu'on songe à la souveraineté du Parlement, à l'initiative populaire et au droit de référendum, notamment lorsque l'on rapporte la modicité de leurs coûts à leur efficacité comme instrument de pouvoir. Réforme de l'État et régionalisation n'aurait-elle pas beaucoup gagné en efficacité et profondeur si, régulièrement, les électeurs français avaient été informés et appelés à s'exprimer ? François Garçon conclut. Allons, tant de temps a déjà été perdu. Mais comme le dit le bon pasteur, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Pour le moment, il est loin d'avoir été entendu, mais peut-être faudrait-il, au préalable, qu'il soit lu. Avant de quitter l'antenne, je rappelle à nos auditeurs que leurs réactions, leurs informations ou leurs commentaires sont les bienvenus, et qu'ils peuvent nous les adresser par email en précisant seulement à quelle émission ils font référence. L'adresse email de la rédaction est radio-silence@wanadoo.fr. Je leur rappelle également qu'ils peuvent acquérir la carte annuelle d'amis de Radio Silence pour la modique somme de 20 euros. C'était Francis Richard qui vous parlait de Lausanne pour Radio Silence.